Et c'est Anne Fauquemberg pour les nouvelles du soir. Bonsoir Anne.
Bonsoir Julie, bonsoir à tous. En Centrafrique, Bangui a revécu ce week-end des affrontements entre bandes rivales. 7 morts, plus de 20 blessés, ce sont les violences les plus graves depuis le début de l'année dans ce pays qui peine à sortir de la guerre civile. Reportage de Saber Djendoubi au début de ce journal. À quoi joue l'Arabie Saoudite avec le Liban ? Beyrouth est toujours sans nouvelles de son premier ministre, plus d'une semaine après sa démission annoncée à Riyad. Analyse à suivre du spécialiste du pays, Joseph Baouf. En France, Alain Juppé pourrait-il tendre la main à Emmanuel Macron. Certaines déclarations le laissent entendre. Explication à suivre de Benoît Bouscarel. Au sommaire de dimanche et après, Julie Gacon.
Eh bien, nous parlerons transition énergétique après l'annonce de Nicolas Hulot cette semaine. Convaincu désormais que la France ne pourra pas porter à 50% au lieu de 75% la part de nucléaire dans la production française d'électricité d'ici à 2025. On en parle avec nos deux invités, l'ex-ministre Delphine Batho et l'économiste Thomas Porcher.
Merci Julie. Et avant de vous retrouver à 18h15, retour sur cette pollution au ruthénium qui a parcouru la France fin septembre. Pas de danger pour la santé, mais Bruno Charréron de la CRIRAD s'alarme. Cet ingénieur en physique nucléaire ne comprend pas pourquoi la source de ce nuage radioactif n'est toujours pas précisément détectée. Interview à la fin de ce journal. En Centrafrique, la capitale Bangui, plutôt paisible depuis le début de l'année, a vécu ce week-end un épisode violent. 4 personnes ont été tuées hier soir et 20 autres blessées dans une attaque à la grenade contre un café de la ville, un café dans lequel se produisait un célèbre chanteur du pays. Puis il y a eu des représailles et 3 personnes au moins ont été tuées. Les violences ont démarré dans les quartiers ouest, dont le quartier PK5 à majorité musulmane, un quartier qui a longtemps été l'épicentre du conflit entre l'ex-rébellion Séléka et celle des milices chrétienne anti-Balaka, Saber Djendoubi.
Oui, en effet, la calmie régnait à Bangui depuis février, bien loin, très loin des affrontements de l'arrière-pays. Mais soudain, alors que la fête battait son plein,
on était surpris par un groupe de gens non identifiés qui étaient venus. Ils étaient sur la moto de passage. Ils ont jeté un grenade au milieu de la foule. Et le grenade a explosé et a fait des dégâts.
L'attentat a fait 4 morts samedi soir, une vingtaine de blessés. Plus tard, dans la nuit, 3 adolescents issus du quartier majoritairement musulman du PK5 ont été assassinés en représailles, affirme Abdourahman Aboukar, un porte-parole de la communauté musulmane.
C'est des innocents. C'est des innocents qui sont en train de promener. Ils ne savent pas ce qui est passé. Et subitement, on l'a arrêté dans d'autres quartiers. On l'a tué froidement, égorgé. Et tuer avec les armes, hein, et lapider même avec le caillou. Présentement là où je vous parle, vraiment trop c'est trop mon frère.
Et c'est l'engrenage hier et jusqu'à ce matin, le chaos régnait dans les quartiers ouest environnant l'attentat. Crépitement d'armes légères, dont des rafales de mitraillettes, faisant à nouveau 10 de blessés. La force onusienne et les autorités centrafricaines assurent avoir renforcé les patrouilles, même si à l'heure actuelle on entend toujours des tirs sporadiques. Alors aucune évolution ne semble à noter, sinon peut-être grâce à la pluie. En tout cas, tout le monde craint ici, à Bangui, un nouvel embrasement de la capitale.
Le reportage à Bangui de Saber Djendoubi. Au Liban, le marathon de Beyrouth a été dédié ce matin à Saad Hariri. Le premier ministre du pays n'est toujours pas rentré depuis sa démission surprise il y a une semaine en Arabie Saoudite. La classe politique du pays soupçonne Riyad de le retenir contre son gré et de se servir du Liban comme d'un pion pour atteindre son ennemi iranien. Joseph Baou est chercheur à la Carnegie Endowment à Washington. Il nous explique pourquoi le Liban devient le nouveau terrain d'affrontement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran.
D'abord, les Saoudiens, dernièrement, les derniers mois, la dernière année, sentent qu'ils s'enlisent au Yémen, indubitablement. Ils ont perdu pratiquement l'entièreté du terrain syrien. Ils ont pris des coups en Irak. Et donc, pour eux, ne rien faire ailleurs, c'est accepter, en fait, c'est se rendre à l'évidence que l'Iran a pratiquement gagné la partie. Et donc, il y a l'idée de jeter une nouvelle carte dans le jeu. L'autre chose qui est évidente aussi, c'est que c'est au Liban que se trouve le principal outil régional de l'Iran, à savoir le Hezbollah. Et donc, c'est peut-être un peu là qu'on peut commencer aussi à casser, disons, l'influence iranienne ou l'expansion iranienne dans la région. À cela s'ajoute un troisième facteur. Si l'on croit les rumeurs, même parfois les bruits plus ou moins sérieux qui disent qu'il y a une convergence israélo-saoudienne, israélo-golfienne sur l'idée que le Hezbollah doit être mis au pas, c'est aussi au Liban que cela peut être fait, c'est-à-dire c'est au Liban qu'une action concertée avec Israël et peut-être un tout petit peu avec d'autres, comme les États-Unis qui viennent de prendre des sanctions contre le Hezbollah, c'est au Liban que tout cela peut se traduire. Donc il était évident que le Liban, même si les Saoudiens au départ n'avaient pas envie de le mettre dans la confrontation, devient une sorte de terrain naturel ou de terrain privilégié.
Des propos recueillis par Benjamin Delisle. En Espagne, c'est en toute discrétion que Mariano Rajoy s'est rendu en Catalogne ce matin. À Barcelone, il a lancé la campagne des élections régionales pour le parti conservateur, le PP. C'était la première apparition du Premier ministre espagnol à Barcelone depuis le début de la crise sur l'indépendance de la région. Mariano Rajoy qui a appelé les électeurs à se mobiliser le 21 décembre prochain pour rétablir la normalité, Pierre Chaperon.
C'était un premier déplacement attendu et c'est en chef mobilisateur que Mariano Rajoy est apparu en Catalogne pour lancer la campagne de son parti à l'élection régionale. Un Partido Popular, seulement cinquième force politique dans l'autonomie. L'objectif est clair pour le président du gouvernement espagnol et il le dit lui-même, récupérer la Catalogne par la démocratie. Il fait appel d'ailleurs à la majorité silencieuse pour aller voter le 21 décembre prochain. Rajoy qui en a profité pour demander aux entreprises de ne pas quitter la région alors qu'elles sont déjà plus de 2000 à l'avoir fait. Mais c'est surtout un chef de gouvernement discret qui est apparu à Barcelone. Pas de bain de foule dans la ville. Il a préféré rester dans les lieux clos de ce premier meeting, un hôtel près de la gare de la capitale catalane. Il faut dire qu'au lendemain de la manifestation indépendantiste, son gouvernement n'a pas la cote dans la région. Pour preuve, ce sondage diffusé par El País à la question « Le gouvernement a-t-il bien géré la situation en Catalogne, ils sont 69% des Catalans à répondre par la négative. Une hostilité en léger recul sur un mois, mais qui montre le désamour profond entre Barcelone et Madrid.
Correspondance à Madrid, signée Pierre Chaperon. En France, Alain Juppé a beau avoir nuancé ses propos cet après-midi sur Twitter, le maire de Bordeaux, Les Républicains, a du mal à cacher son admiration pour Emmanuel Macron. Dans plusieurs médias, il loue la politique internationale et européenne du chef de l'État. On a même cru qu'il allait proposer de faire liste commune avec La République En Marche pour les prochaines européennes. Bonsoir Benoît Bouscarel.
Bonsoir Anne.
C'était avant un tir de barrage du Républicain, Laurent Wauquiez.
Oui, et à cela, rien d'étonnant. Hein. Laurent Wauquiez n'a aucun intérêt à laisser passer à droite la moindre allusion, le moindre commentaire favorable ou même bienveillant à l'égard d'Emmanuel Macron et de La République En Marche. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes est en campagne pour la présidence de Les Républicains et ce qui se joue pour lui, c'est une conquête de l'espace politique à droite. Comment exister entre la majorité présidentielle et le Front National alors qu'il est déjà assez compliqué pour lui de reconstruire sur une ligne politique claire. Ce qu'exprime Alain Juppé de son côté en adressant ses quelques satisfécites au chef de l'État, c'est un point de vue qu'on connaissait déjà, un point de vue largement plus proche des constructifs que de sens commun.
Mais il n'appelle pas à faire des listes communes rectificatives d'Alain Juppé cet après-midi.
Voilà, ce serait de toute façon une position assez difficile à tenir, mais l'essentiel est ailleurs. Le problème est qu'il est en train, consciemment ou non, de perturber le tempo, la campagne, la conquête de l'espace de Laurent Wauquiez en tentant d'enjamber le scrutin du 10 décembre pour la présidence de LR, sur lequel il ne s'est d'ailleurs pour l'instant pas prononcé, en regardant directement vers 2019 et les européennes et en oubliant Laurent Wauquiez à se prononcer sur sa vision de l'Europe en l'obligeant consciemment ou non à se découvrir sur le sujet sensible du moment et pour les mois à venir au sein de la droite républicaine. Bref, c'est un peu la mauvaise conscience de Laurent Wauquiez qui vient encore une fois de donner de ses nouvelles.
Merci Benoît Bouscarel pour votre analyse. Il avait dirigé la ville d'Aubervilliers de 1984 à 2003. Ancien député et ministre communiste dans le gouvernement morois, Jacques Ralit est décédé aujourd'hui à l'âge de 89 ans. C'est Meriem Derkaoui, la maire d'Aubervilliers, qui l'annonce en faisant part de sa grande tristesse. Jacques Ralit était passionnément engagé pour la culture exigeante et populaire, attaché à la gauche rassemblée. Il défendait la banlieue avec sensibilité. Réaction également du socialiste Stéphane Troussel, le président du département de la Seine-Saint-Denis. L'Institut français de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'IRSN, a beau assurer qu'il n'y a pas de risque pour la santé après le passage d'un nuage radioactif fin septembre en France. Plusieurs questions restent ouvertes en lien avec cette pollution au ruthénium-106, un produit de fission issu de l'industrie nucléaire. Pour en parler, nous sommes avec Bruno Charéron. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ingénieur en physique nucléaire et directeur de la CRIRAD, la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Pas d'inquiétude effectivement pour la santé en France. En revanche, vous vous alarmez quant à la source de pollution que l'INRS situe entre la Volga et l'Oural. Ce n'est pas normal selon vous qu'un mois après, les spécialistes n'aient pas trouvé le site en cause.
Oui, lorsque on a eu connaissance de cette présence de ruthénium-106 dans l'atmosphère en Europe, et y compris en France, à la CRIRAD, nous avons fait un communiqué le 5 octobre pour dire, attention, le niveau de radioactivité sur la France est effectivement très faible et ne nécessite pas de mesures de protection en France. Par contre, il faut absolument déterminer rapidement d'où vient cette radioactivité, parce qu'évidemment, plus on s'approche de la source de la radioactivité, plus elle est intense et plus il y a des risques pour la population qui vit dans la zone soumise à ce rejet. C'est pour ça que ce que nous ne comprenons pas, ce que nous déplorons et ce qui nous inquiète vraiment beaucoup, c'est de voir qu'en 2017, malgré tous les moyens techniques qui existent, plus d'un mois après un tel rejet, la communauté internationale n'est pas capable de répondre à la question précise de l'origine de ce rejet.
Alors justement, monsieur Charéron, on manque d'une stratégie européenne dans ce type de situation.
Ben oui, nous, il nous semble que un certain nombre de choses concrètes auraient dû être faites et ne semblent pas avoir été faites. C'est par exemple contrôler la radioactivité à la surface des avions qui auraient pu survoler les territoires dont on pense qu'ils sont à l'origine de ce rejet. C'est aussi par exemple veiller à ce que les ambassades des pays européens qui sont situés dans les pays d'où on pense qu'a pu être émis ce rejet, que dans ces ambassades, il y ait des prélèvements de sol, de végétation, pour un certain nombre d'analyses. C'est aussi, par exemple, évidemment, qu'il y ait des contrôles ciblés sur certaines denrées, comestibles et non comestibles, en provenance des territoires dont on suppose qu'ils sont à l'origine de ce rejet. Or, à notre connaissance, ce type de stratégie ne semble pas avoir été effectué, ou en tout cas, si elle l'a été, n'a pas été rendue publique. Et puis aussi, au niveau de l'Agence internationale de l'énergie atomique, on voit qu'il n'y a pas assez de capacité à obtenir des résultats, puisque l'ensemble des résultats d'analyse de ruthénium dans l'atmosphère qu'a publié l'Agence internationale de l'énergie atomique ne comporte que très peu de mesures sur la Russie, par exemple. Et ça, ce n'est pas normal.
Alors, vous appelez aussi à renforcer les capacités des citoyens dans les pays concernés, notamment la Russie. Par quoi cela doit se traduire?
À partir du moment où on voit que les États ne sont pas en capacité de nous informer correctement, ce qu'il faut, de notre point de vue, c'est renforcer la capacité de contrôle de radioactivité par les citoyens et les associations. C'est de là qu'est née la CRIRAD. La CRIRAD est née en 1986. Du constat que l'État français nous a menti en 1986 sur les retombées de Tchernobyl et que donc il fallait que des citoyens puissent avoir leur propre laboratoire de mesure. Et nous travaillons dans ce sens depuis une trentaine d'années pour organiser des stages d'utilisation d'un compteur GGR en France et dans d'autres pays du monde. Et ce qui nous paraît important, c'est que autour des installations nucléaires, en particulier dans ces pays, dans les pays qui ne sont pas réputés pour leur transparence, des citoyens puissent s'équiper de compteurs GGR pour faire des contrôles et au moins lever le doute. C'est-à-dire que il faut bien comprendre que si la modélisation qu'a fait l'IRSN représente la réalité, s'il y a bien eu un rejet de 100 à 300 000 milliards de becquerels sur une installation terrestre, dans l'environnement de cette installation, la radioactivité a dû être très importante et l'est encore, puisque le ruthénium-106 ne voit sa radioactivité divisée par deux que tous les ans, et donc avec un simple compteur GGR, des citoyens pourraient, autour de cette installation, et même peut-être à plusieurs kilomètres, détecter la radioactivité anormale et à partir de là lancer une alerte. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à améliorer au niveau officiel, au niveau des États et du fonctionnement des contrôles de radioactivité, et au niveau des démarches des associations et des citoyens. Et puis, il faut faire pression, et la CRIRAD a lancé une pétition en 2011 là-dessus, pour que les mesures de radioactivité de l'atmosphère qui sont faites par certains réseaux internationaux, en particulier par rapport à la question du suivi de l'interdiction des essais nucléaires, que ces mesures soient rendues publiques. Or, aujourd'hui, elles ne le sont pas.
Merci.
Il y a énormément de choses à faire aussi en matière de transparence.
Merci Bruno Charéron d'avoir été l'invité du journal de 18h de France Culture. Vous êtes ingénieur en physique nucléaire et directeur de la CRIRAD. La météo, attention aux vents violents en Corse, en Isère et en Savoie. 5 départements toujours en alerte orange ce soir. Demain, lundi 13 novembre, ça sera le retour du soleil sur une grande moitié ouest. Et la région parisienne, le ciel reste couvert dans les Hauts-de-France, en Bourgogne-Franche-Comté. Et en Auvergne-Rhône-Alpes, où des averses de neige sont à prévoir, les températures au réveil de moins 2 à Chamonix, jusqu'à 10 à Marseille. Il fera 6 à Paris, 7 à Lille et 8 à Bordeaux. Ce journal a été préparé avec Caroline Beneteau. À la technique, c'était Alexandre Dang.